La réticence de Lady Anne. Egbert entra dans le vaste salon, médiocrement éclairé, avec la mine d'un homme qui ne sait pas très bien s'il entre dans un colombier ou dans une fabrique de bombes, et est prêt à affronter ces deux possibilités. La petite querelle domestique pendant l'heure du déjeuner n'avait pas abouti à un résultat bien net, et la question était de savoir si Lady Anne était d'humeur à renouveler les hostilités ou à y renoncer. Sa pose dans le fauteuil près de la table de thé était d'une raideur plutôt étudiée, et dans l'obscurité d'un après-midi de décembre, le pince-nez d'Egbert n'était d'aucun secours matériel pour discerner l'expression de son visage. Désireux de briser les quelques glaçons flottant encore à la surface, il hasarda une remarque sur la sombre lumière religieuse. Lui-même ou Lady Anne avaient l'habitude de faire cette remarque entre 4h30 et 6h, chaque soir de l'hiver ou de l'automne finissant. Elle faisait partie de leur vie conjugale et n'appelait aucune réponse bien définie, et Lady Anne n'en fit aucune. Don Tarquinio était étendu de tout son long sur le tapis persan, se prélassant à la lueur de l'âtre, avec une superbe indifférence envers la mauvaise humeur possible de Lady Anne. Son pédigré était aussi irréprochablement perçant que le tapis, et son collier entrait dans la splendeur de son second hiver. Le page dont les goûts inclinaient vers la Renaissance l'avait baptisé Don Tarquinio. Laissé à eux-mêmes, Egbert et Lady Anne l'auraient immanquablement appelé Peluche, mais l'obstination n'était pas un de leurs défauts. Egbert se versa un peu de thé. Comme Lady Anne ne semblait pas vouloir briser le silence de sa propre initiative, il s'apprêta à faire un autre effort digne de Yermak le Cosaque. Ma remarque au cours du déjeuner était d'une application purement académique, annonça-t-il. Vous m'avez semblé y attacher une signification inutilement personnelle. Lady Anne resta sur son quant à soi, derrière sa barrière de silence. Le Bouffreuil remplit paresseusement l'intervalle avec un air d'Iphigénie en tauride. Egbert le reconnut instantanément, car c'était le seul air que sut siffler le Bouffreuil et qu'il leur était venu avec cette réputation. L'un comme l'autre, Egbert et Lady Anne auraient préféré un emprunt à « The Yeoman of the Guard » de Gilbert et Sullivan, qui était leur opéra favori. En matière d'art, ils avaient les mêmes goûts. Ils inclinaient vers l'honnête et l'explicite. Par exemple, un tableau qui racontait sa propre histoire avec l'aide généreuse d'un titre. Un cheval de guerre sans cavalier, au harnais en désordre, entrant en trébuchant dans une cour pleine de femmes pâles et au bord de l'évanouissement, avec la note marginale « mauvaise nouvelle », suggérait à leur esprit une interprétation bien nette de quelque catastrophe militaire. Il percevait d'emblée le message qu'il était censé transmettre et qu'il pouvait expliquer à des amis d'une intelligence plus bornée. Le silence perdurait. En général, le mécontentement de Lady Anne devenait explicite et même volubile après 4 minutes d'introduction silencieuse. Egbert saisit le pot à lait et versa une partie de son contenu dans la soucoupe de Don Tarquinio. Comme la soucoupe était déjà pleine à rapport, le résultat fut un débordement peu esthétique. Don Tarquinio jeta un regard surpris et intéressé qui se fit évanescent et d'une inconscience calculée lorsqu'Egbert l'invita à venir boire quelques gouttes du lait versé. Don Tarquinio était prêt à jouer bien des rôles dans la vie, mais celui d'aspirateur pour tapis souillé n'était pas l'un d'eux. « Ne pensez-vous pas que notre conduite est plutôt stupide ?» fit Egbert d'un ton encourageant. Si Lady Anne était de cet avis, elle s'abstint de le préciser. « J'admets volontiers que j'ai eu partiellement tort, » poursuivit Egbert, dont la gaieté s'évaporait. « Après tout, j'ai mes faiblesses comme tout un chacun, vous savez. Vous semblez l'oublier. » Il insista sur ce point, comme si quelqu'un avait, à tort, voulu laisser entendre qu'il était une espèce de satyre avec des prolongements caprins là où s'arrêtait l'humain. Le Bouffreuil relança son air d'Iphigénie en tauride et Egbert commença à se sentir déprimé. Lady Anne ne buvait pas son thé. Peut-être ne se sentait-elle pas très bien. Mais quand tel était le cas, elle était habituellement peu encline à s'en cacher. Personne ne sait ce que mes indigestions me font souffrir, était une de ses remarques favorites. Mais cette ignorance ne pouvait être due qu'à une écoute inattentive, car la somme d'informations disponibles sur le sujet aurait pu fournir matière à une monographie. Manifestement, Lady Anne n'était pas souffrante. Egbert commença à trouver qu'on le traitait de façon déraisonnable, et naturellement, il se prépara à faire des concessions. « Je suppose, fit-il observer, en prenant position au centre de la portion du tapis que Don Tarquinio voulut bien lui concéder, que j'ai été dans mon tort. Je suis disposé, si cela peut contribuer à ramener la paix entre nous, à promettre de m'amender. » Il se demanda vaguement comment ce serait possible. Arrivé à l'âge mûr, des tentations lui venaient, timidement et sans insistance, comme chez un apprenti boucher qui demande des étrennes en février sous le prétexte peu valable qu'il n'a rien reçu au début de janvier. Il n'était pas plus tenté d'y succomber qu'il n'avait envie d'acheter les couteaux à poisson et les boas de fourrure que les dames se sentent tenues de sacrifier par le biais des colonnes publicitaires pendant les 12 mois de l'année. Cependant, comment ne pas être impressionné par cette renonciation spontanée à des énormités peut-être latentes? Si Lady Anne fut impressionnée, elle n'en laissa rien paraître. Egbert la regarda nerveusement à travers ses lunettes. Avoir le dessous dans une discussion avec elle n'était pas une expérience nouvelle. Avoir le dessous dans un monologue était une nouveauté humiliante. « Je vais m'habiller pour le dîner », annonça-t-il d'une voix où il entendait laisser percer une nuance de sévérité. À la porte, un dernier accès de faiblesse l'incita à tenter un ultime appel. « Ne sommes-nous pas vraiment stupides ?»« Idiot !» fut le commentaire mental de Don Tarquinio, tandis que la porte se refermait sur la retraite d'Egbert. Puis, projetant en l'air ses avant-pattes de velours, il fit un léger bond sur une étagère à livres située juste au-dessous de la cage du Bouvreuil. C'était la première fois qu'il semblait remarquer l'existence de l'oiseau, mais il mettait à exécution le principe d'une action précise, longuement méditée. Le Bouvreuil, qui s'était imaginé être un genre de despote, se recroquevilla soudain, au point de perdre les 2/3 de son volume, puis tomba et ne fut plus que battements d'ailes et pépiments aigus. Il avait coûté 27 shillings sans la cage, mais Lady Anne n'eut même pas l'air de vouloir s'interposer. Elle était morte depuis 2 heures.